gagnez d'expérience dans la vie, plus vous savez l'importance de la croix, qui est capable de vous pardonner vos pires erreurs. On est en période de vacances. Globalement, pour certains, c'est un moment un peu très attendu pour souffler. Et pourtant, ça peut être un moment très dangereux. Très dangereux parce que si vous prenez des vacances, le diable, lui, n'en prend pas. Il est opérationnel et reste opérationnel. Et on va lire ensemble tout le début de la Bible, dans la Genèse, le chapitre 4. Prenez avec moi si vous voulez bien. Genèse chapitre 4. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans la voiture pour ceux qui sont descendus en vacances. Est-ce qu'il y a eu un petit peu des... Est-ce que le voyage a été calme ou est-ce qu'il a été mouvementé? Je ne sais pas ce que vous regardez devant la télé, vous qui restez ici. Je ne sais pas comment vous parlez à votre conjoint, à votre conjointe, si vous êtes mariés. En tout cas, dans le livre des Galates, la Bible nous donne quand même un avertissement très net par rapport à quel doit être notre comportement. Et en tant que chrétien, je voudrais vous rappeler ces choses-là. L'immoralité, les pratiques dégradantes, les relations sexuelles hors mariage, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités dans la famille, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, donc les excès d'alcool, les orgies, toutes ces autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que je vous ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'ont aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mes amis, la barre, elle est haute et pendant les vacances, on a tendance à la descendre. Et je crois que le diable se joue des fois de vous. Il vous fait tourner autour du péché, comme dans un chiffon rouge. Et vous vous tournez autour, vous êtes prêt à foncer dedans. Et je vais demander à Christian s'il veut bien juste mettre une petite bande son. Et je ne sais pas si ça va vous faire penser à quelque chose. Pendant ce temps-là, préparez Genèse 4.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux?
Merci. Vous avez reconnu Francis Cabrel, la corrida. Et je crois que des fois, c'est vous le taureau. Je crois que des fois, le chiffon rouge, c'est le péché. Vous êtes en train de tourner autour. Et le diable se joue de vous. Comme il s'est joué à l'époque de Caïn. Et vous connaissez comment finit le taureau. En général, dans les arènes. Je pense que Dieu nous avertit ce matin. Moi, c'est le dernier message que je voudrais partager avant de ne pas être là, c'est la semaine prochaine, la semaine d'après, mais j'ai sur mon cœur de vous partager cela. L'homme s'unit à Ève, donc Adam s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte, donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme, un costaud. un taureau, des muscles. Caïn, c'est puissant. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta... Abel. Donc elle se mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn devint cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Il allait au culte le dimanche matin et il a fait une prière, il a fait une offrande à Dieu, il a peut-être amené quelque chose. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, mais pourquoi te mets-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-le. Et Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère, j'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Et un peu plus loin dans la Bible, l'apôtre Paul dit, en effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je déteste ce que je fais. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est en œuvre dans mon œuvre. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Mais malheureux que je suis, mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Seigneur, que ces paroles puissent vraiment nous toucher ce matin. Je te prie pour que l'onction de Dieu, Seigneur, dans la vérité de ces moments, dans la transparence devant toi, tu puisses nous toucher parce que tu veux prévenir quelqu'un qui est en situation de danger spirituel. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui dans cette salle est comme un taureau et le diable est en train de le faire tourner autour du péché. Je te prie pour que ce matin, cet avertissement de Dieu puisse être un moyen de salut. Et si c'est moi, et si c'est quelqu'un qui pour l'instant ne se sentait pas concerné, que tu puisses trouver un accès au cœur pour que cette matinée ait un sens. Au nom de Jésus, amen. Amen. Moi, je prie vraiment pour toi parce que vous voyez, le taureau, lorsqu'il rentre dans l'arène, il ne comprend pas forcément ce qui lui arrive. Et vous connaissez la corrida? C'est pas du tout mon truc, la corrida. Mais j'ai quand même appris en me renseignant qu'est-ce que c'est que la corrida. Vous comprenez bien que c'est un taureau que l'on va mettre à mort. Et il y a trois tertiaux pour les aficionados, ceux qui aiment beaucoup ça. Ils reconnaissent trois tertiaux. Il y a trois temps dans la corrida. Le premier temps, c'est blesser le taureau. L'objectif est simplement de l'énerver, de le pousser, de le toucher, de le taper, de le blesser. Le deuxième temps, le deuxième tertio, il y a des picadores, vous voyez, ils jettent de loin des banderilles, c'est des bouts de bois avec un harpon au bout. Ça paraît joli, mais ça rentre dans la chair du taureau. Vous savez où est-ce qu'il frappe? Il frappe juste en dessous de la tête, au niveau du cou. Et après, le matador, lui, une fois que le taureau, après quelques passes dans le troisième tertio, il y a une faena, il joue. Il s'amuse avec celui qui est en train de s'approcher de la mort. Et avec le taureau, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il rend l'épée. Vous savez que votre adversaire, le diable, cherche à vous tuer. Vous avez un matador en face de vous. Vous avez un matador en face de vous. Vous êtes parfois dans l'arène et ce n'est pas toujours au moment où on le croit. Il y a des moments dans votre vie où vous êtes plus fragile par rapport à cela. Et je voudrais qu'on puisse voir ce qui se passe dans la vie de Caïn. Le premier tertio. Blesser le taureau pour l'affaiblir. Regardez ce qu'il est dit au verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les produits de la terre en offrande à l'Éternel. C'est bien ou pas? C'est bien! Regardez ce que vous êtes venu faire ce matin. Vous êtes venu offrir un temps à Dieu, peut-être certains ont apporté une offrande, certains ont dit « Seigneur, je t'apporte ma louange ». Vous êtes venu avec votre famille, vous avez fait l'effort de vous lever, vous avez pris les enfants, ils sont sages à côté de vous. Vous avez assuré en tant que maman, vous avez assuré en tant que papa. Peut-être quelqu'un qui est venu célibataire, il y avait une semaine difficile, beaucoup de fatigue au travail parce que les autres sont absents, donc tu dois faire deux fois plus. Tu viens ce matin, tu viens pour apporter quelque chose à Dieu, tu viens pour être dans la présence de Dieu. Et Caïn, il vient et il apporte quelque chose à Dieu. Caïn, il apporte ses produits de son sol, il apporte peut-être des beaux fruits, il apporte ce qu'il a travaillé, il apporte ça à Dieu. Et regardez ce qui se passe. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau, on en frit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn se mit dans une grande colère. Son visage s'assombrit. Vous savez que le péché commence toujours par un sentiment de manque. Ne croyez pas qu'on commence à pécher, que ce soit l'adultère, que ce soit le fait d'avoir des accès de colère, que ce soit la jalousie, que ce soit le désir d'avoir ce qui appartient à l'autre. Toutes ces choses contre lesquelles tu peux lutter, contre ce que tu mets, les images que tu mets devant les yeux, ça ne commence pas par un désir de péché. Le péché, quand ça vous voyez les autres, vous dites « Ah, il a péché, oh là là, il s'est fait avoir, etc. Il a été attiré par son propre péché. » Mais à la base, ce qui vous attire dans le péché, c'est parce qu'il y a un manque, il y a une souffrance. Et le problème de Caïn, c'est qu'au début, et c'est pour ça que j'appelle ça le premier tertio, c'est quand le taureau est blessé. C'est parce que quelque part, tu es blessé. Et Caïn est blessé. Il est blessé de ce que son offrande n'a pas été acceptée comme il pensait qu'elle allait être. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, alors qu'il a été sérieux, qu'il avait mis des choses en place dans sa vie, pourquoi Dieu, il a l'impression que le ciel est fermé. Peut-être toi, tu as l'impression que le ciel est fermé, que Dieu répond aux prières des autres, qu'il y a des Abel à côté de toi. Je ne sais pas si ton voisin a une tête de Abel, mais que tu dis, mais lui, il est plus béni que moi. Elle, quand elle prie, c'est bizarre, mais c'est comme si elle avait l'onction, moi, j'ai rien. Et il y a des moments où on peut être comme ça, dans ce sentiment de frustration. Et je pense que c'est un moment particulièrement dangereux. On peut rentrer dans l'arène quand on arrive à un moment où, dans notre vie spirituelle, on dit Dieu préfère les autres à moi. Je suis décalé par rapport à Dieu. Je ne ressens pas la présence de Dieu et je ne vois pas le regard favorable de Dieu sur moi. Sentiment d'être rejeté. Vous savez, l'adultère, ce n'est pas qu'une question au début, ce n'est pas le plaisir d'aller forcément avoir une femme de plus, d'avoir un homme de plus. Pourquoi vous allez vers l'adultère? Parce qu'il y a un moment où vous dites, vu comment fonctionne mon mariage, et vu le peu de respect que me porte mon conjoint, et vu le peu d'affinité que j'ai avec mon épouse, et puis vu comment elle a évolué alors qu'au départ, elle n'était pas du tout comme ça, et vu ce manque que j'ai dans mon cœur, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui je puisse connecter. Et c'est là que vient l'adultère. L'adultère, ce n'est pas qu'une question de sexe qu'on se dit « Ah, ben ça, j'ai envie de ça en plus !» C'est parce qu'il y avait quelque chose en moins. C'est parce qu'il y a un vide dans votre cœur que vous allez faire le péché. Pourquoi vous montez sur vos grands chevaux? Pourquoi vous montez en colère? Parce qu'au début, vous dites, mais j'ai fait quelque chose, il n'a pas respecté mes droits. J'avais des possibilités. Pourquoi tu m'as fait ça? Et tu vas voir ton conjoint et tu dis, mais c'est quoi ça, cette histoire? Et c'est pour ça que dans la voiture, vos enfants sont obligés de vous dire de vous taire. Il y a un problème là-dedans. C'est qu'au départ, il y a un manque. Et je pense que c'est quelque chose de très dangereux. Quand Caïn vient le voir, il a le sentiment d'avoir fait des efforts pour rien. Il a le sentiment d'avoir fait des efforts pour rien. Je parle à tous les hommes et toutes les femmes de cette salle qui pensent avoir fait des efforts pour rien. Vous êtes en danger. Parce que c'est sur ce terreau-là que vous rentrez dans l'arène du diable. Le diable utilise avant tout votre sentiment de frustration. Or, naturellement, on est tous enclins à la frustration. Que tu sois un jeune homme, une jeune femme, quelqu'un de plus âgé, au bout d'un moment dans ta vie, tu connais un peu des frustrations. Et plus ces frustrations s'amplifient, deuxième tertio, plus le diable, regardez, c'est vraiment ça, c'est comme le matador. Il vient, il se met à côté, les picadors et les motadors, quand ils sont là à côté, ils prennent, ils montent, enfin je ne sais pas, moi, il faudrait que je monte, mais ils prennent de la hauteur et hop, ils jettent les banderies au bas de la tête du taureau. Ils ne le tuent pas. Ils font simplement que de mettre plus encore. Et vous voyez les banderies, quand elles se plantent, elles partent plus. Le taureau, il a ces bouts de bois là qui sont plantés et lui qui est super fort, parce que c'est dans sa tête, il n'arrive pas. C'est en face de lui, il le défonce. Mais comme ce problème, il est juste dans sa tête, il n'arrive pas à s'en défaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans votre tête que se passe le problème. Où est-ce que le diable veut toucher? C'est dans vos pensées. Lorsque vous êtes en colère, qu'est-ce que le diable va faire? Il va mettre de l'huile sur le feu.
Il va simplement mettre un peu plus que ce qu'il y a d'abord. Et du coup, tu montes par rapport à tout ce qui pouvait être de la pornographie. Au début, tu as l'impression que tu contrôles. Et puis, hop, il en rajoute, clac, comme ça. Et progressivement, tu dis, mais je m'en sors pas avec cette histoire. Pourquoi dans Galates, il parle de l'ivrognerie par rapport à l'alcool, par rapport à toute dépendance? Il y a des gens qui ont des dépendances dans la salle ce matin. Le diable, il a simplement besoin de mettre, allez, clac, une de plus. Et du coup, dans ta tête, ces banderies, c'est quoi? C'est, tu t'en sortiras pas, t'es né comme ça, c'était pareil chez tes parents, et puis de toute façon, ton mari, vu comment il te parle, c'est normal que tu réagisses ainsi. Puis quand t'as de la violence qui vient dans ton cœur et que tu commences à donner des coups, de toute manière, elle le mérite. On parle pas comme ça à son mari, normalement, c'est normal que tu te défendes, sinon elle arrêtera jamais. Et toutes ces paroles-là sont des banderies que le diable met dans ton cœur. Cain, au début, c'est une frustration. La frustration, le diable, dans le deuxième tertio, va faire une amplification. Et l'amplification de cette frustration va donner lieu à une pulsion. Et ça, c'est étonnant, parce que alors que vous étiez victime, comprenez-moi, essayez de voir ce que je veux dire ce matin psychologiquement. Lorsque je suis en colère, avant d'être en colère, c'est parce que je m'estime victime de quelque chose. D'accord? Lorsque je regarde la porno, c'est parce que j'ai un manque dans le domaine de la sexualité. D'accord? Lorsque je vais commencer à aller sur Facebook et essayer de connecter avec des personnes, et je sais que c'est un jeu dangereux, c'est parce que j'ai un manque de reconnaissance, soit sociale, soit un manque d'amour. Et cette amplification après, que le diable vous fait tourner dans votre tête, va donner lieu à des pulsions. Effort pour rien, amertume, jalousie, colère, amplification, colère plus. Vous savez ce que vous faites lorsque vous n'arrivez pas à gérer? Vous mettez fin à la souffrance. Ce que vous faites? Lorsque le sentiment est en train de s'amplifier, je reprends toujours le sentiment par rapport à l'alcool. Reprenez le sentiment par rapport au fait d'aller avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, avec qui vous n'êtes pas marié, que ça soit en dehors du mariage, avant le mariage ou alors que vous êtes marié. Que ça soit la colère ou des paroles mauvaises. Il y a un moment où vous montez les niveaux pour y mettre fin. Et c'est quelque chose de très, très, très bizarre. Vous avez peut-être regardé beaucoup de séries américaines sur les profilers, etc. Vous dites, mais ils sont fous, ces gens-là. Ces gens-là, c'est vous. On a tous en nous quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, on veut y mettre fin. Même le pire des criminels, le pire des pédophiles, ils passent à l'acte à la fin pour dire, voilà, je vais arrêter d'avoir cette guerre intérieure. C'est effrayant ce que je suis en train de vous dire. Mais ça s'appelle le diable et qui arrive à rentrer dans votre cœur et qui vous met les pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent. Ce qui fait que la personne va passer à l'acte, c'est parce que alors qu'elle était victime, elle va passer au rôle de coupable parce que la pulsion va te rendre acteur de ce que tu veux. Je vous donne l'exemple. Quand vous êtes tenté par l'alcool, à force d'avoir à lutter contre l'alcool, ça devient tellement prise de tête. Vous êtes tellement obsédé par ça, phénomène d'amplification, qu'au bout d'un moment, vous dites, de toute façon, ce verre de plus ne pourra pas me mettre dans un état pire que ce que je vis avant. Vous me suivez? L'adultère, pareil. Le fait que, de toute manière, à l'heure actuelle, je vis tellement mal ma vie sentimentale, je suis tellement... Il me manque de l'amour, il me manque de la reconnaissance, il me manque de la complicité. Pourquoi les autres ont le droit d'être heureux et pas moi? Clac, 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 ça monte. Du coup, je vais franchir parce que même si je trompe mon conjoint, je ne serai pas dans une situation pire que ce que je suis avant. Et c'est pour ça que Oscar Wilde dit la meilleure façon de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder. Et c'est une des plus grandes phrases sataniques qui existent. Parce qu'il n'y a pas pire chose que ça. C'est exactement l'inverse de ce que Jésus dit. C'est exactement l'inverse. Tant que tu te bats contre, tu peux être sauvé. C'est quand tu cèdes et que tu dis, voilà, je cède, j'assume mon péché, que le diable me met les stockades. Et c'est ça le tertio. Et juste avant, je termine sur cette analyse de la corrida, c'est ce qu'on appelle la faena. Dans le troisième tertio, donc le premier tertio, c'était il blesse le taureau. Deuxième tertio, il lui en rajoute plus, c'est l'amplification. Et le troisième tertio, il y a deux moments. Le premier moment, c'est la faena. Vous voyez quand le torero, il fait « wouh » comme ça, là. Il sait. Il sait qu'il va peut-être mourir. Le taureau sait qu'il va peut-être mourir. Mais il se dit aussi, je vais peut-être m'en sortir en le mettant par terre et en rentrant dans le péché. Et si je vais arrêter de courir dans cette arène. Si seulement j'arrive à le toucher, j'arrête. Et le diable essaye de te faire quelques petites passes comme ça. Et tu penses que tu maîtrises. Vous voyez, il y a quelque chose de terrible, c'est que le taureau, pourquoi il y va encore ? C'est parce qu'il se dit, j'ai encore une chance de m'en sortir par moi-même. Ça, c'est une autre phrase démoniaque. À chaque fois que tu te dis, j'ai encore une chance, j'ai des entretiens avec vous. Hein. Combien de fois j'entends des personnes qui ont des problèmes, soit par rapport à l'adultère, soit par rapport à une dépendance à l'alcool, etc., soit par rapport au sexe, hors mariage, soit par rapport à la violence. Non, mais pasteur, à partir d'aujourd'hui, je m'en sors. Si tu me dis ça, pour moi, tu es sur la plus mauvaise des voies. C'est très bien, je comprends ta sincérité. Mais si tu penses que tu peux t'en sortir tout seul, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Parce que ça veut dire que le sang de Jésus ne sert à rien. Et ça veut dire que la vie de Jésus ne sert à rien. Pourquoi il a envoyé, à votre avis, son Fils unique ? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je crois que je vais m'en sortir. Le taureau, il croit qu'il va s'en sortir. Il se dit, j'ai encore une chance, je maîtrise la situation. Quand tu vas sur Facebook et que tu envoies, tu reprends contact avec quelqu'un ou tu prends contact avec quelqu'un que tu sais qui t'attire et que tu ne devrais pas être attiré par cette personne-là. Mais tu te dis, non mais j'envoie juste, salut, comment tu vas ? Attends, c'est pas moi qui... Après, réponds pas, ça ne me regarde pas. Tu es en train de faire des passes, là. Et en fait, tu ne te rends même pas compte que le diable est en train de jouer avec toi. Il te laisse croire que tu maîtrises. Il te fait « Wouh !» Pas d'adultère. « Wouh !» Quand tu prends qu'un café, tu prends qu'un café. Parce que ça fait du mal d'aller au cinéma avec quelqu'un. Puis de toute façon, avec mon mari, il ne se passe rien depuis quelques temps. De toute façon, au cinéma, ça fait déjà 2 ans, je pense que j'ai le droit d'aller au cinéma. Tu vas trouver plein de bonnes excuses. Caïn, il a dit à Abel, viens, on va au champ. Je ne sais pas si Caïn, à ce moment-là, est en train de se dire, c'est étonnant ce verset, c'est verset 8. Caïn dit à Abel, allons au champ. Je pense que Caïn, il se dit, je le tue pas, j'y vais pas, je règle le problème, je le règle pas. Et puis à l'intérieur, ça boue. Et il tue. Et il tue Abel, et au moment où il tue Abel, c'est lui qui vient de tuer. Il vient de se tuer. Il vient de se tuer. Lorsque tu cèdes au péché, ce que je vous disais tout à l'heure est une profonde erreur. Le sentiment de dire « ça ne pourra pas être pire après, ça sera pire après ». J'ai vu suffisamment de papas dans mon bureau et de maman dans mon bureau qui, à propos de l'adultère, par exemple, me disaient « je pensais que ma vie avant, le malaise dans mon cœur était immense et que je m'en sortirais pas. Mon couple marchait tellement mal que je me pensais vraiment malheureux. Mais depuis que j'ai entendu ma fille crier de pleurs dans la salle de bain parce qu'on divorçait, j'ai compris que, en fait, l'horreur, c'était après et pas avant. » Tu comprends ce que je veux dire ? C'est pire après. Quand tu cèdes au péché, c'est pire après. Le mari qui a donné un coup à sa femme, justement pour mettre fin à cette discussion qu'il ne maîtrisait plus, quand il se retrouve en face de la glace et qu'il voit l'homme qui vient donner un coup à sa femme, il y a quelque chose qui est mort en sa femme et il y a quelque chose qui est mort en lui. Quand il se regarde en face, son image de lui-même, c'est un pauvre type qui bat sa femme. Vous comprenez ça ? Il croit que ça va mettre fin à la souffrance de cette discussion qu'il ne maîtrise pas, mais la souffrance postérieure est infiniment plus grave. Inversement, si c'est la femme, pareil. Alors, je veux vous dire qu'il y a une possibilité, parce que pour Caïn aussi, il y avait une possibilité. Il y avait une possibilité que Dieu avait fait, qu'il avait offert à Caïn. Et ça s'est joué dans le deuxième tertio, si vous m'avez suivi tout à l'heure. Le premier tertio, il était blessé parce qu'il avait un sentiment de manque et d'injustice vis-à-vis d'Abel. Le deuxième tertio, le diable a commencé à lui mettre des idées dans la tête. Et là, Jésus est intervenu. Là, il a une parole de Dieu. Dieu lui a dit, méfie-toi, Caïn, parce que le diable, il est à ta porte comme il est tapis. Et quoi ? Et son désir se porte vers toi. Je veux te dire qu'il y a quelqu'un pour qui tu as du prix. Et ce n'est pas forcément Dieu, c'est le diable. Et à ce moment-là, il en veut à ta peau, Caïn. Pense ça, comprends ça. Dans ton couple, il veut que ton couple soit cassé. Il veut que tu parles mal au travail. Il veut qu'il y ait des conflits à la maison. Le diable, il est tapis à la porte et il attend qu'une chose. C'est que tu laisses ta colère monter suffisamment pour qu'il puisse prendre et agir par toi. Et alors là, Dieu intervient et dit, Caïn, pourquoi ? Vous savez, quand je dis pourquoi à mon épouse, ça veut dire que j'essaye de comprendre. Et ça veut dire que je veux donner à l'autre la possibilité de s'exprimer. Il y a trois choses qui peuvent t'aider à t'en sortir. La première chose, c'est parle avec Dieu de ce problème. Parle avec Dieu parce que ton couple ne va pas bien, tu as le droit de le dire à Dieu. Dieu ne te demande pas, Caïn, de faire comme si tu n'avais pas souffert. Il sait que Caïn n'a pas compris l'histoire de l'offrande et il sait que Caïn a beaucoup de colère, beaucoup d'amertume. Et Dieu vient le voir et lui dit pas, méchant Caïn, il ne fallait pas que tu t'énerves. Il lui dit simplement, c'est pas trop tard, parle-moi. Je peux sauver la situation encore. Est-ce que tu entends ce matin ce que je veux te dire de la part de Dieu ? La situation, Dieu veut la sauver encore. Ton couple, Dieu peut le sauver. Ta dépendance vis-à-vis de l'alcool, Dieu peut te sauver. Ta dépendance vis-à-vis de la cigarette, ta dépendance vis-à-vis de la porno, ta dépendance, Dieu peut encore agir. Mais maintenant, il faut jouer carte blanche. Il ne faut pas que tu dises, Dieu, il n'y a pas de problème. Comme Caïn va faire en disant, c'est pas moi qui suis responsable de mon frère. Dieu, il est prêt, mais dialogue honnête. Est-ce que tu as un problème, oui ou non, avec ça ? J'ai tellement l'impression de parler des fois pour moi, ou tous les fois où je vais faire comme s'il n'y a pas vraiment un problème et que je maîtrise. Si tu dis que tu maîtrises, Dieu dit « Ok, débrouille-toi ». Dieu dit « Débrouille-toi ». Tu penses que tu vas sauver ton couple tout seul, débrouille-toi. Tu penses que tu vas te sortir de cette dépendance au sexe, débrouille-toi. Mais si jamais tu es prêt à dire à Dieu « Dieu, je me mets à genoux, je veux parler avec toi ». Dieu, il te parle où ? Il te parle dans la Bible. Quand tu lis la Bible l'été, tu te sauves. Ça te compense beaucoup toutes les bêtises que tu regardes à la télé. Et vu le nombre de magazines que tu vas lire sur la plage, il va falloir vraiment que tu médites Romains et Galates pour compenser toutes les bêtises et tous les tests à 2 francs que tu vas faire. Je n'ai pas voulu mettre en euros parce que ça ne vaut pas des euros. Et vous voyez, tu te nourris de toutes ces choses-là et tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Et à la fin, tu dis, c'est bizarre, je ne résiste pas. Tu nourris pas ton chat, si tu nourris pas ton chien pendant les vacances, tu le retrouves mort. Hein. T'es pareil que ton chat, t'es pareil que ton chien, tu ne nourris pas spirituellement pendant les vacances. Tu seras en sale état à l'église en septembre. Hein. Si tu viens de revenir, je ne sais pas, heureusement là, tu as ce message aujourd'hui, ça te réveille un petit peu. Parce que Dieu veut te sauver. J'arrive à la fin. Donc écoute le conseil de Dieu, passe du temps avec ta Bible, passe du temps à l'église. C'est pour ça que c'est dangereux aussi l'été, parce qu'on passe moins de temps à l'église, c'est normal, on est en vacances. Le diable, non. Et puis écoute la voix du Saint-Esprit dans ton cœur, toujours dans ce point où je dis parle avec Dieu. Le Saint-Esprit te dit des choses, il te dit des choses par les autres, il te parle des fois, tu as cette conscience qui te dit ça c'est pas bien. Tu es sur Facebook, tu dis est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas. Et pourquoi tu dis est-ce que je réponds pas ? C'est parce qu'il y a Dieu qui dit ça serait peut-être pas une bonne idée de répondre. Mais quand même, ça serait sympa parce que tu n'as pas eu de nouvelles depuis longtemps. Donc, à un moment, à force d'écraser l'alarme du Saint-Esprit, il arrête. Hein. Moi, si j'ai un réveil blanc Philips, là. Tous les matins, il me casse la tête pour me réveiller, pour me dire « Yvan, réveille-toi, je ne voudrais pas me réveiller. » Mais si jamais je vais en face du réveil Philips et que je lui dis « Espèce de Philips, tiens, poum, tu n'avais qu'à pas me réveiller ce matin. » Je peux vous dire une chose, le lendemain, il ne va pas me réveiller. Hein. Il est explosé, il ne me réveille plus. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Tu tapes sur le Saint-Esprit pour qu'il se taise. Deux, trois fois, tu l'as fait taire. Il dit « Ok, c'est bon. Hein. » Tu me demandes de t'interpeller, je t'interpelle, tu me fais taire. Repousse les flèches enflammées du malin, parce que c'est ce que la Bible dit. Repousse. Vous savez, dans cette phase du deuxième tertio, l'amplification, là, l'amplification, comment tu fais pour t'en sortir ? Repousse les flèches enflammées du malin. Il y a quelque chose de merveilleux. La force est en Christ. Non, mais vraiment, ce n'est pas un slogan, c'est vraiment ça. Vraiment, il y a un moyen de dire, Seigneur, je crois que tu peux gérer ça. L'apôtre Paul, il ne s'en sortait pas, je ne sais pas quel était son problème, et il dit, je veux faire le bien, je n'arrive pas, je veux faire le mal, je ne veux pas faire le mal, je le fais. Mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? C'est une prise de tête. Et à un moment, il dit, j'ai trouvé, grâce soit rendue à Christ, qui m'a libéré la loi du péché et de la mort. Et un peu plus loin, regardez ce qui est dit. Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ne savez-vous pas que nous tous, nous avons été baptisés pour Christ, mais c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Il y en a qui sont ressuscités, mais d'eux-mêmes. Quand vous êtes dans le baptême, là, il y en a qui sont allés chercher le vieil homme au fond de la baignoire et qui l'ont ramené debout. C'est lorsque tu dis un jour, dans les eaux du baptême, « Seigneur, je meurs à moi-même ». J'arrête de respirer. C'est ça le baptême. Hein. Et je prends le symbole. Je dis, Seigneur, je veux que tu sois maintenant au contrôle dans ma vie. Mais je crois que certains, au bout d'un moment, ils disent, non, je vais le rechercher, lui, au fond. Je veux reprendre le contrôle sur ma vie. Quand tu es avec Christ, tu es mort à toi-même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la seule façon de t'en sortir. C'est dire vraiment, non seulement parler à Dieu, comme j'ai vu dans le premier point pour s'en sortir. Le deuxième, quand on repousse les flèches du mal, c'est qu'on dit, voilà, je ne me bats plus contre ça. Parce que j'ai choisi d'appartenir à Christ et Christ vit en moi. Je laisse le Saint-Esprit à l'œuvre en moi et je demande à ce que lui-même soit mon bouclier, ma force, ma forteresse. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est complètement possible. Il a dit, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce que la loi était incapable de faire parce que l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Vous savez une chose, c'est que le taureau qui est mort dans l'arène, c'est pas vous. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce que j'appelle la substitution de Jésus. Et c'est tout ce que la Bible t'enseigne. C'est qu'à la fin, pour situer ce taureau dans l'arène, c'est possible d'avoir l'image de la corrida. Situer ce taureau dans l'arène, il y a la possibilité de dire « Quelqu'un a pris ma place. Jésus a pris ma place. » Et à la croix, il a pris ma place. Il a dit « Notre condamnation est tombée sur lui. » Il n'y a rien de plus à faire. C'est-à-dire, en face de lorsque la tentation monte, repousse toutes ces choses qui arrivent dans ta tête et le fait que ça monte en puissance. Et, je laisse ça à Jésus. Pense à la croix. Pense à l'œuvre de Jésus et ne te laisse pas avoir par le diable qui dit tu peux t'en sortir tout seul. Tu dis Seigneur Jésus, tu as payé pour mon péché. On ferme les yeux ensemble, je demanderai à l'équipe de musiciens de venir sur le devant. Crie à Jésus ce matin. Crie à Jésus, ne te mens pas à toi-même. Il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Alors que tu fermes les yeux, je voudrais te dire que mais à présent, il est vivant. Il est vivant, c'est la Bible qui le dit. Ainsi vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce plus la domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Mais ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez mort et que vous êtes maintenant vivant, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez tous vos membres à disposition comme des armes au service du bien.
car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce. Pour tout pécheur qui est honnête devant Dieu, qu'il s'appelle Saül, qu'il s'appelle David, qu'il s'appelle quel que soit le nom, il y a une possibilité de retour. Il y a toujours un moment où Dieu envoie un prophète, peut-être comme moi ce matin, pour te dire, il est prêt à te secourir. Dieu dialogue avec toi ce matin et dit, tu veux t'en sortir ou pas ? Tu veux t'en sortir ou pas ? Tu veux t'en sortir par rapport à la violence ou pas ? Tu veux sauver ton mariage ou pas ? Tu veux tenir le célibat sans avoir besoin d'avoir des relations hors mariage ? Est-ce que tu veux t'en sortir ou pas ? Tu veux t'en sortir par rapport à l'alcool ou pas ? Il te tend la main ce matin. Crie à Jésus. Vrai, 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 sois vrai.
Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments. Il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main.
Reste dans la prière. Certains ont lu très fort dans leur cœur, très très fort dans leur cœur. Certains se disent, je suis malheureux, malheureux que je suis, mais qui me délivrera ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré du péché et de la mort. Est-ce que tu veux demander pardon à Christ ce matin ? Est-ce que tu veux faire de Christ le centre de ta vie ? Si tu as besoin de la grâce de Dieu par rapport à un des événements que j'ai dit ce matin, j'ai cité, je demandais à tout le monde de garder les yeux fermés, lève-toi à ta place. Si tu veux être vrai devant Dieu, si tu veux rien faire, reste comme quelqu'un, reste assis, il n'y a pas de problème. Enfin si, il y a un gros problème et tu le géreras tout seul puisque c'est ton choix. Mais si tu veux vraiment, ce matin, parce que tu sens que tu t'en sors pas et que tu veux confier cette situation à Jésus, lève-toi. Lève-toi. Je ne sais pas quel est ton péché, je ne sais pas si c'est la colère, la violence, la critique, les dissensions, les querelles, les amertumes, les rivalités avec quelqu'un, la jalousie, les relations sexuelles hors mariage, la pornographie. C'est qu'il y a un manque à l'intérieur de toi et si tu n'en parles pas avec Dieu, tu t'en sortiras pas. Si tu n'en parles pas avec Dieu, tu t'en sortiras pas. On j'ai demandé à l'équipe de reprendre ce chant et on va rester en prière. Laisse le temps à Dieu de passer dans ton cœur maintenant. Ce matin, ça peut être une matinée bénie. Tu peux te rappeler pendant des années et des années en disant, c'est le jour où j'en ai parlé vraiment à Dieu. J'ai mis tout sur la table et j'ai senti le pardon de Dieu qui passait et qui m'a pardonné. Seigneur Jésus.
Il te tend la main
encore une fois.
T'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois et voudrait tellement te serrer dans ses bras.
On peut se lever tous ensemble.
Il te tend la main encore une fois.
Même si des milliers de fois.
Même si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler.
Seigneur Jésus, passe ce matin. Seigneur, écoute notre prière en cet instant.
Elle peut encore te diriger. Souffler à ton oreille.
Tu es pardonné.
Que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain. Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le.
Une fois, tout le chemin
te laisse le choix.
Il te tend la main encore une fois.
Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main,
Seigneur Jésus. On peut commencer à prier dans ce lieu pour terminer ce culte. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux commencer à crier à Dieu? Parle à Dieu alors que la musique continue. Peut-être toi, concentre-toi sur Jésus. Crie à Jésus. Il y a un combat maintenant. Il y a un combat dans le ciel. Si vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances dans les lieux célestes, des autorités. Alléluia. Prends ce matin cette position pour Jésus. Je veux. Il y a quelque chose de prophétique dans le chant. Il a dit, ne t'inquiète pas pour demain. Dieu veut remplir ce qui te manque dans ton cœur. Il sait que c'est là le problème aussi. Il veut prendre soin de ton lendemain. Il commence à crier, Seigneur, je veux m'en sortir avec toi. Je veux croire qu'à la croix, tout est payé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes péchés passés, ils sont effacés. Alléluia. Il n'y a plus de rien qui prouve. Tu as tout effacé. Alléluia. Parle à Dieu ce matin, oh, te prie pas, parle à Dieu, je ne peux pas prier à ta place, je ne peux pas parler à ta place. Alléluia. Alléluia, continue à prier, lève ta voix. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, tu entends les soupirs qui montent de ce lieu. Oh mon Dieu. Si tu sais quelqu'un dans ce lieu, toi ça va bien, tu as pu régler des problèmes, tu sais que tel ou tel, tes enfants, tes proches, il y a quelqu'un qui a du mal avec ça, commence à prier pour tes proches, commence à dire, Seigneur, je reconnais la grâce que j'ai eue, je te prie pour eux, je te prie pour elle, je te prie pour lui, Seigneur, aide-la à s'en sortir. Oh mon Dieu, alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez reprendre place. Vous avez le meilleur ami en la personne du Saint-Esprit. J'ai le meilleur ami. Et si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Alléluia, le juste. Amen.